19. Elle revient à elle, grommela quelqu'un. Celui à tête de bulldog crut reconnaître Susanna. Non pas que ça ait la moindre importance. Sous le masque, ils avaient tous l'air de rats humanoïdes avec de la fourrure qui pointait à travers leur chair croustillante. « Parfait !» commenta Seir, qui marchait derrière eux. Elle regarda autour d'elle et constata que son escorte était constituée de 6 ignobles, de faucons et d'un trio de vampires. Les ignobles portaient des pistolets dans des crocs de débardeurs. Sauf que dans ce monde, on les appelait sans doute des holsters. À Rome, ma chère, il faut faire comme les Romains. Deux des vampires portaient des bas, l'espèce d'arc typique des Calas. Le troisième avait un sabre électrique qui bourdonnait, assez proche du modèle que maniaient les loups.
10 contre 1, pensa froidement Susanna. Pas bon, mais ça pourrait être pire.
Peux-tu... La voix de Mia quelque part à l'intérieur d'elle.
« La ferme !»
lui ordonna Susanna.
« Finis de parler !»
Devant elle, sur la porte dont il s'approchait, elle lut « North Central Positronics, New York, FEDIC. Sécurité maximale. Code verbal d'entrée exigé. » L'inscription lui était familière, et Susanna se rappela instantanément pourquoi. Elle avait vu un panneau similaire durant sa brève visite à FEDIC. FEDIC, où la Mia réelle, l'être qui avait endossé le destin des mortels dans ce qui devait être le pire marché de l'histoire de l'humanité, restait prisonnière. Lorsqu'ils atteignirent la porte, Seir la poussa côté faucon. Il se pencha vers la porte et émit un son guttural, un mot inconnu que Susanna n'aurait jamais su reproduire d'elle-même.
« Peu importe, » chuchota Mia. « Moi, je sais le dire, et s'il le faut, je peux t'en apprendre un autre. Mais pour l'instant, Susanna, je te demande pardon pour tout. Adieu, porte-toi bien. »
La porte menant à la gare expérimentale de l'arc 16 de FEDIC s'ouvrit. Susanna entendit comme un bourdonnement martelé et sentit l'ozone. Nulle magie n'actionnait cette porte entre les mondes. C'était l'œuvre des grands anciens et leur erreur. Ceux qui l'avaient conçue avaient perdu foi en la magie, avaient renoncé à croire à la tour. Pour remplacer la magie, ils avaient réalisé cette chose mourante et bourdonnante. Cette stupide chose mortelle. Et au-delà, Susanna aperçut une gigantesque pièce remplie de lits, de centaines de lits.
C'est là qu'ils opèrent les enfants, là qu'ils leur arrachent ce dont les briseurs ont besoin.
Un seul des lits était occupé. Au pied se tenait une femme avec une de ses effroyables têtes de rat. Une infirmière, peut-être. À ses côtés, Susanna vit un être humain. Elle ne pensait pas qu'il s'agissait d'un vampire, mais n'avait aucun moyen d'en être certaine, car ce qu'elle entrevoyait par la porte entrebâillée était aussi flou que l'air tremblotant au-dessus d'un incinérateur. Il leva les yeux et les vit. « Dépêchons !» s'écria-t-il. « Bougez-vous, il faut qu'on les branche et qu'on en finisse, ou bien elle mourra, ils mourront tous les deux. » Le médecin, qui d'autre qu'un médecin aurait été capable d'une telle arrogance en présence de Richard Pisser, agitait les mains en petits gestes impatients, leur faisant signe d'approcher. « Mettez-la là-dedans. Vous êtes en retard, bon Dieu !» Seir la poussa brutalement par la porte. Elle entendit un bourdonnement au plus profond de son crâne et une brève mesure de carillon du Vahadash. Elle baissa les yeux, mais trop tard. Les jambes d'emprunt de Mia avaient déjà disparu et elle s'étala par terre avant que Faucon et Bulldog aient pu la suivre et la rattraper. Elle se hissa sur les coudes et regarda vers le haut, consciente que, pour la première fois depuis Dieu savait combien de temps, probablement depuis qu'elle s'était fait violer dans le cercle de pierre, elle ne s'appartenait qu'à elle-même. Mia n'était plus. Puis, comme pour lui prouver le contraire, l'invitée surprise et indésirable de Susanna laissa échapper un cri. Susanna y ajouta le sien. La douleur était à présent trop insupportable pour être tue. Et l'espace d'un instant, leurs voix chantèrent l'arrivée du bébé dans une harmonie parfaite. « D'où Jésus ?» fit l'un des gardiens de Susanna. Vampire, ignoble, comment savoir ? « Est-ce que j'ai les oreilles en sang ? J'ai bien l'impression d'avoir les os. Ramasse-la, Aber !» aboya Seir. « Jay, remets-la debout. Relevez-la au nom de vos pères !» Bulldog et Faucon, ou Aber et Jay pour faire plus réaliste, l'attrapèrent sous les aisselles et lui firent remonter la travée au pas de course, faisant défiler les rangées de livides. Mia se tourna vers Susanna et réussit à lui adresser un faible sourire épuisé. Elle avait le visage baigné de sueur et ses cheveux collés à sa peau écarlate.
« Heureuse rencontre que la nôtre, heureuse et douloureuse !»
articula-t-elle tant bien que mal.
« Poussez-moi un lit par là !» hurla le médecin. « Grouillez-vous, bon Dieu ! Comment est-ce qu'on peut être aussi lent ?»
Deux des ignobles qui avaient accompagné Susanna depuis le cochon du Sud attrapèrent le lit vide le plus proche et le poussèrent à côté de Mia pendant que Aber et Jay la tenaient toujours entre eux. Sur le lit reposait ce qui ressemblait à un croisement entre un sèche-cheveux et le genre de casque de l'espace qu'on voyait dans les vieux épisodes de Flash Gordon. L'engin n'inspira rien de bon à Susanna. Il avait comme un air de suceur de cervelle. Pendant ce temps, l'infirmière à tête de rat était penchée entre les jambes écartées de la patiente, examinant la zone située sous la blouse d'hôpital qu'elle portait désormais. Elle tapota le genou droit de Mia d'une main potelée et poussa une sorte de vagissement. L'intention en était très probablement de rassurer Susanna, pourtant elle frissonna.
« Ne restez pas plantés là comme des cons !» glapit le médecin.
C'était un homme corpulent aux yeux marrons et au teint rougeau. Sa chevelure noire était tirée en arrière et chaque dent du peigne avait laissé un sillon bien net. Il portait une blouse blanche en nylon par-dessus un costume de tweed. Sa cravate écarlate était ornée d'un œil dessiné en plein milieu. Ce sigleux ne surprit pas Susanna outre mesure.
« Nous attendons votre feu vert, » fit Jay l'homme faucon.
Il s'exprimait d'une voix étrange, inhumaine et monocorde, aussi déplaisante que le vagissement de l'infirmière à tête de rat, mais parfaitement compréhensible.
« Vous ne devriez même pas avoir besoin de mon feu vert !» aboya le médecin.
Il claqua des mains en un geste gaulois, censé exprimer du dégoût.
« Vos mères n'ont donc pas eu d'enfant qui ait survécu ?»«
Je... »
tenta Aber. Mais le médecin s'en prit immédiatement à lui. Il était visiblement remonté.
« Depuis combien de temps on attend ça, hein ? Combien de fois on a répété cette procédure ? Comment on peut être aussi crétin, bordel ? Aussi lent ? Grouillez-vous de l'allonger sur le... »
Seir bondit avec une rapidité que même Roland n'aurait sans doute pas pu égaler. Il se tenait à côté d'Aber, l'ignoble à tête de bulldog. Et la seconde d'après, il avait fondu sur le médecin, lui plantant son menton dans l'épaule et lui retournant le bras dans le dos. L'expression d'irascibilité et de condescendance qui se peignait sur le visage de l'homme un instant auparavant disparut en un clin d'œil et il se mit à gémir comme un enfant d'une voix aiguë et déchirante. De la bave coula de sa lèvre inférieure, et l'entrejambe de son pantalon de tweed fut bientôt noire d'urine.
« Arrêtez !» brailla-t-il. « Je ne vous serai plus d'aucune utilité si vous me cassez le bras. Oh, arrêtez, ça fait mal !»«
Si vous n'étiez pas déjà un bras cassé, et que je devais vous casser celui-là, Scouter, je ramasserai n'importe quelle demeurée en blouse blanche pour finir le boulot, et je le tuerai ensuite. »
Et pourquoi pas? Ce n'est jamais qu'une femme qui accouche, pas de la chirurgie du cerveau pour l'amour de Gann. Puis il relâcha légèrement son emprise. Scouter sanglotait et se contorsionnait en gémissant et en pouffant comme quelqu'un en train de copuler par 50 degrés à l'ombre.
Et quand ce serait fait que vous n'auriez rien à voir là-dedans, poursuivit Seir, c'est vous que je leur donnerai comme amuse-gueule, fit-il avec un mouvement du menton.
Susanna regarda dans la direction qu'il désignait et constata que tout le mur, entre la porte et le lit sur lequel reposait Mia, était recouvert d'insectes comme ceux qu'elle avait aperçus au cochon du Sud. Leurs yeux gourmands et furieusement intelligents étaient fixés sur le médecin replet. Leurs mandibules cliquetaient.
Qu'est-ce que je dois faire, Sai ?
Implore mon pardon.
J'implore votre pardon.
Et le leur aussi, car tu les as insultés, eux aussi.
Messieurs, j'implore.
Docteur !
S'exclama l'infirmière à tête de rat. Lorsqu'elle parlait, sa voix était épaisse, mais compréhensible. Elle était toujours penchée entre les jambes de Mia.
Je vois la tête du bébé.
Sayr libéra le bras de Scotter.
Allez, docteur Scotter, faites votre devoir, mettez cet enfant au monde.
Sayr se pencha en avant et caressa la joue de Mia avec une sollicitude extraordinaire.
Gardez joie et espoir, dame Sai. Certains de vos rêves pourraient bien se réaliser.
Elle leva les yeux vers lui avec un air de gratitude épuisée qui déchira le cœur de Susanna.
« Ne le crois pas, ces mensonges sont infinis »,
essaya-t-elle de lui faire entendre, mais pour l'instant tout contact entre elles était rompu. Elle se retrouva jetée comme un sac de grains sur le lit qu'on avait approché près de celui de Mia. On lui mit de force un des casques sur la tête et elle fut dans l'incapacité de se débattre. Une nouvelle contraction la traversa, et une fois encore, les deux femmes hurlèrent à l'unisson. Susanna entendait Sayr et les autres entre eux. En dessous et derrière elle, elle percevait aussi le cliquetis déplaisant des insectes. Dans le casque, des protubérances métalliques lui appuyaient sur les tempes, au point de lui faire mal. Soudain, une voix de femme charmante s'éleva.
Bienvenue dans le monde de North Central Positronics, filière du groupe Sombra. Sombra, là où le progrès ne s'arrête jamais. Veuillez patienter, liaison en cours.
Susanna entendit un fort bourdonnement. Tout d'abord dans ses oreilles, puis lui vrillant les deux côtés de la tête. Elle visualisa deux balles rougeoyantes se rapprochant l'une de l'autre. Faiblement, comme de l'autre bout de la pièce et non du lit voisin du sien, elle perçut le hurlement de Mia.
« Oh non, je vous en supplie, ça fait tellement mal !»
Le bourdonnement à gauche et le bourdonnement à droite se rejoignirent au centre du cerveau de Susanna, en une onde télépathique qui allait détruire toute capacité de réflexion, si elle durait trop longtemps. C'était une torture indescriptible, mais elle garda les lèvres serrées. Elle avait décidé de ne pas crier, qu'il voit les larmes qui suintaient dessous ses paupières closes, mais elle était un pistolero et il ne la ferait pas crier. Au bout de ce qui lui parut une éternité, le bourdonnement se tut. Susanna eut une seconde ou deux pour savourer ce silence béni dans sa tête, puis la vague de contraction suivante la frappa, ce coup-ci très bas dans le ventre, avec la force d'un typhon. Cette fois, elle s'autorisa à hurler sa douleur, parce que c'était différent, étrangement. Hurler pour la venue du bébé était un honneur. Elle tourna la tête et vit qu'on avait équipé Mia d'un casque similaire, fixé sur sa chevelure noire et trempée. Les tuyaux d'acier articulés sortant des deux casques étaient reliés au milieu. C'était le genre de gadget dont il se servait avec les jumeaux volés, mais à présent il remplissait visiblement une autre fonction.
Laquelle ?
Sayr se pencha vers elle, assez près pour qu'elle sente les effluves de son eau de Cologne. « Cuir anglais, devina-t-elle. »
Pour accomplir la dernière phase du travail et faire sortir le bébé, nous avons besoin de ce lien physique, expliqua-t-il. Vous amener jusqu'ici à Fédic était absolument vital. Il lui tapota l'épaule. Bonne chance, il n'y en a plus pour longtemps. Il lui adressa un sourire engageant.
Le masque qu'il portait se plissa vers le haut, découvrant une partie de l'horreur écarlate qui se cachait dessous.
Après,
nous pourrons vous tuer. » Son sourire s'élargit. « Et vous mangez, bien sûr. Rien ne se perd dans le cochon du Sud. Pas même une espèce de garce arrogante comme toi. » Avant que Susanna ait pu répondre quoi que ce soit, la voix de femme sans tête se remit à parler. « Veuillez décliner votre nom lentement, à voix haute et distincte. »«
Va te faire foutre !» glapit Susanna pour toute réponse.
« Va te faire foutre n'est pas un nom valide pour une personne d'origine non asiatique, » commenta la voix de femme, toujours aussi charmante. « Nous détectons des signes d'hostilité et vous prions de nous excuser par avance pour la gêne occasionnée par la procédure en cours. »
Pendant quelques secondes, il ne se passa rien. Puis le cerveau de Susanna s'embrasa de douleur, une souffrance inimaginable, bien au-delà de ce qu'elle avait eu à endurer de toute sa vie, au-delà de ce qu'elle pensait pouvoir exister. Elle l'affronta pourtant les lèvres closes. Elle repensa à cette chanson et l'entendit même à travers les roulements de tonnerre de la souffrance.
« I'm a maid of constant sorrow. I've seen trials all my days. »
Puis le tonnerre se tut enfin.
« Veuillez décliner votre nom lentement, à voix haute et distincte, »
fit la voix de femme charmante au centre de son crâne.
« Ou bien cette procédure sera amplifiée de l'ordre de 1 à 10. »
« Pas besoin de ça, » répliqua intérieurement Susanna à la voix de femme.
« Tu m'as convaincu. »« Susanna, »
prononça-t-elle.
« Susanna. »
Il se tenait là à la regarder, tout sauf Mamselle Tête de Rat qui contemplait avec extase l'orifice par lequel surgissait de nouveau la tête couverte de duvet de bébé entre les lèvres retroussées du vagin de Mia.
« Mia, Susanna. »
Quand pointa la contraction suivante, le docteur Scotter s'empara d'une paire de forceps. Les voix des deux femmes se fondirent en une seule, prononçant un mot, un nom qui n'était ni Susanna ni Mia, mais une combinaison des deux.
« La liaison a été établie, »
annonça la voix de femme charmante. Elles entendirent un faible clic.
« Je répète, la liaison a été établie. Merci de votre coopération. »
« Nous y sommes, messieurs, » déclara Scotter. Il semblait avoir oublié sa douleur et sa peur panique. Il avait l'air surexcité. Il se tourna vers son infirmière. « Il va peut-être pleurer, Alia. Si c'est le cas, laissez faire, au nom de votre père. S'il ne crie pas, nettoyez-lui tout de suite la bouche. »«
Oui, docteur. »
Les lèvres de la chose se mirent à trembler, puis découvrirent une double rangée de crocs. S'agissait-il d'une grimace ou d'un sourire ? Scotter se tourna vers eux, retrouvant une once de son arrogance passée. « Restez tous exactement où vous êtes jusqu'à ce que je vous dise quoi faire. Aucun de nous ne sait précisément ce qui nous attend. Tout ce que nous savons, c'est que cet enfant appartient au roi cramoisi lui-même. » À ces mots, Mia poussa un hurlement strident, un hurlement de douleur et de révolte mêlés. « Espèce d'idiot !» fit Seyre. Il leva la main et gifla Scotter avec une telle force que ses cheveux voltèrent et que des gouttelettes de sang allèrent éclabousser le mur blanc.
« Non !»
s'écria Mia. Elle tenta de se redresser sur les coudes, échoua et retomba sur l'oreiller.
« Non ! Vous disiez que je pourrais l'élever. Oh, s'il vous plaît ! Rien qu'un petit peu, pas longtemps, je vous en prie !»
C'est alors que la douleur la plus atroce la chavira. Les chavira toutes les deux, les engloutissant complètement. Elles hurlèrent en tandem, et Susanna n'eut pas besoin d'attendre les commentaires de Scotter qui lui ordonnait de pousser maintenant.
« Il arrive, docteur !»
s'écria l'infirmière, à la fois nerveuse et extasiée. Susanna ferma les yeux et poussa de toutes ses forces, et lorsqu'elle sentit la douleur s'échapper d'elle comme de l'eau jaillissant en tourbillonnant dans un tuyau noir, elle ressentit le chagrin le plus intense qu'elle ait jamais connu.
car c'était en Mia que s'enfuyait le bébé. Les tout derniers mots du message vivant que le corps de Susanna avait été conçu pour transmettre. C'était la fin. Quoi qu'il se passe ensuite, c'était la fin de cette étape. Et Susanna Dean émit un gémissement de soulagement et de regret mêlé. Un gémissement qui était presque un chant. Et c'est ainsi, sur les ailes de ce chant, que Mordred Deschain, fils de Roland et d'une autre, répétaient tous Discordia, vint au monde. Soliste. Comme à la Viencas, l'enfant est là enfin. Entonne ton chant, chante le bien. L'enfant est là, regarde le bien. Cœur. Comme à la Viencas, le pire est en chemin. La tour tremble sur ses bases. L'enfant est là, enfin.